Vous écoutez Europe 1, la suite de votre grand journal du soir avec vous Virginie Salmen.
Alors vous le savez, on écoute le monde changer sur Europe 1 et dans le monde agricole, des chercheurs ont redécouvert les ressources insoupçonnées de l'urine. Alors évidemment, ça peut paraître un peu étonnant de parler d'urine pour fertiliser les champs, mais cette urine, on la jette comme ça, sans y penser, avec des milliers de litres d'eau potable dans les toilettes, alors qu'elle contient azote, phosphore, potassium, des nutriments très utiles aux plantes. Et si c'était l'engrais de demain? C'est ce que se sont dit nos deux invités, Fabien Esculier, chercheur à l'école des ponts Paris-Tech au laboratoire Eau, Environnement et système urbain. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Michael Russ, fondateur d'une entreprise spécialisée dans le recyclage de l'urine, basée à Bordeaux, Toupie Organics. Bonsoir.
Bonsoir.
D'abord, est-ce que peut-être vous pouvez nous expliquer comment vous faites pour valoriser, comme on dit, c'est-à-dire réutiliser et enrichir l'urine?
Alors, tu veux commencer, Fabien, peut-être?
Alors, je peux préciser déjà l'enjeu principal de l'utilisation de l'urine. Hein, c'est une pratique qui existe depuis très 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 longtemps. Et finalement, c'est assez récent qu'on se soit détourné de l'utilisation de l'urine comme un engrais agricole en France. Par exemple, à Paris, on a évalué qu'au début du XXe siècle, on avait à peu près 50% des nutriments qui sont présents dans l'urine, des matières fertilisantes, qui étaient effectivement retournées sur les sols agricoles.
D'accord, donc on va voir effectivement comment on fait concrètement. Donc ce que vous dites, c'est que c'est pas nouveau. Hein. On vient pas de découvrir les propriétés fertilisantes de l'urine. On a préféré ces dernières années utiliser de l'engrais chimique. C'est peut-être plus facile à fabriquer ou à transporter?
Ce qui s'est passé, c'est une réelle évolution des systèmes, c'est-à-dire que les villes produisaient tout un tas de ressources qui étaient utilisées par l'agriculture ou par l'industrie, dont l'urine. Mmh. Et puis, progressivement, effectivement, on s'est mis à utiliser un certain nombre de ressources fossiles qui sont apparues comme étant plus pratiques à utiliser pour un certain nombre d'acteurs. L'évolution a été très lente. Mmh. Mais effectivement, les ressources fossiles, donc que ce soit des hydrocarbures ou des ressources issues de mines, phosphore, potassium, ont fini par dominer dans l'usage de matières fertilisantes agricoles.
Et remplacer donc cette urine. Michael Russ, fondateur de l'entreprise Toupie Organics, basée près de Bordeaux. Peut-être que vous pouvez nous expliquer, vous, concrètement, comment est-ce que vous faites pour la valoriser, cette urine?
Alors nous, en fait, on se sert de l'urine comme d'un substrat pour faire croître des micro-organismes qui ont de l'intérêt en agriculture ou en industrie.
D'accord.
Donc si je prends un exemple pour l'azote, qui est l'élément, on va dire, principal utilisé en agriculture, mmh. Il y a des bactéries qui sont présentes dans des sols tout à fait classiques, dans tous les sols, qui sont capables de fixer l'azote atmosphérique directement et le restituer pour les végétaux. Et nous, en fait, on est capable de faire pousser ces bactéries sur de l'urine, parce que c'est un substrat qui est presque prévu pour par la nature elle-même. Et en fait, du coup, on se retrouve avec un concentré de bactéries qui permet en fait de donner un peu plus de valeur à l'urine et d'enclencher une filière de valorisation.
D'accord, c'est une façon de l'enrichir. Et là, au départ, comment on collecte très basiquement, hein, à partir des toilettes publiques, par exemple, comment est-ce qu'on collecte cette urine?
Alors nous, pour l'instant, on ne travaille pas avec des toilettes publiques. Nos sources actuelles pour récupérer des urines, ça va être tout ce qui est laboratoire d'analyse médicale, tout ce qui est festival, donc notamment via les urinoirs féminins et masculins. Et là, on commence en fait des premières modifications d'infrastructures, en fait des établissements qui reçoivent du public. Donc ça peut être des stades, des stations-service, des aires d'autoroute, des bâtiments de bureaux. En fait, partout, il y a énormément de volumes d'urine qui sont générés. Par exemple, une aire de repos, une station-service, 95% des arrêts, les gens s'arrêtent pour faire pipi. Ils ne s'arrêtent pas forcément pour acheter de l'essence, mais ils s'arrêtent pour faire pipi.
D'accord, voilà. Donc vous récupérez toute cette urine qui, pour le coup, est l'équivalent d'un engrais.
Tout à fait. Mais en fait, on peut tout simplement transformer. En fait, on passe d'urinoir classique avec une chasse d'eau à des urinoirs sans eau. Et avec, en fait, en dessous, notamment dans les vides sanitaires, des cuves de collecte qui permettent ensuite de récupérer ces fluides pour s'en servir ensuite pour la valorisation.
D'accord. Donc vous venez justement de lever 1 million d'euros pour déployer 300 stations de traitement qui permettraient d'utiliser 1% de l'urine des Français et donc de produire assez de biofertilisants pour se passer d'engrais chimiques.
Non, c'est pas exactement ça.
Alors,
parce qu'en plus tout ça, ça reste des calculs théoriques. C'est pas nous, si vous voulez, là, ce qu'on fait pour l'instant, c'est on fait une preuve de concept, c'est-à-dire on démontre que sur une localité donnée, on est capable de récolter l'urine, la transformer, la valoriser en agriculture, et que ça a un impact en fait environnemental et économique. Et évidemment, l'idée en fait, c'est de déployer des unités de traitement, parce que vous imaginez bien que ça n'a aucun sens d'aller par exemple chercher de l'urine à Paris pour la transformer à Bordeaux et la revendre à Reims. Mmh. En termes de coût de transport, c'est impensable. Donc l'idée, en fait, c'est d'avoir une première unité, une première usine de transformation qui fonctionne, qui est remplie. Et une fois qu'elle fonctionne, on déploie d'autres unités.
D'accord. Fabien Esculier, peut-être vous pourriez nous dire, vous, ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de le faire à grande échelle, récupérer l'urine à grande échelle ?
Oui, au 19e siècle en France, il y avait à très grande échelle, et de la même manière que le décrit Michael dans tout un tas de localités en France, des usines de transformation de l'urine pour en faire des fertilisants. On a dénombré, c'est Emmanuel Adler dans une thèse qu'il a soutenue cette année, qui a dénombré 150 brevets déposés au 19e siècle en France sur des procédés de transformation de l'urine pour en faire, et ou des matières fécales pour en faire des matières fertilisantes. Donc il y a déjà eu, il y a 100 ans, en France, tout un maillage du territoire par des unités de collecte, de stockage local, de collecte, et puis de transformation de l'urine pour en faire des matières fertilisantes. Effectivement, l'utilisation à très grande échelle de pétrole et de produits fossiles nous a détourné de cette pratique. Et finalement, aujourd'hui, on se rend bien compte des inconvénients environnementaux majeurs de l'utilisation du pétrole. Et donc, on revient dans l'esprit à des solutions qui sont relativement similaires. Maintenant, dans la mise en œuvre, effectivement, il y a beaucoup de choses à réinventer parce qu'on ne fera pas ce qu'on faisait au 19e siècle. C'est tout un tas de façons de faire, évidemment, parce qu'il y a eu énormément de progrès techniques et d'évolution sociale depuis. Et ce réintérêt pour l'urine, il a commencé dans le monde occidental dans les années 90, en Suède principalement, en Scandinavie, puis il a rayonné vers les pays germanophones et puis désormais aussi en France. Et donc les premiers exemples qu'on a eus en Suède, ça a été des quartiers, des éco-villages, souvent c'est de l'habitat participatif, des gens qui ont installé chez eux des toilettes à séparation d'urine, hein, donc il y a des urinoirs qui permettent de collecter l'urine masculin ou féminin depuis quelque temps, il y en a de plus en plus, ou des toilettes à séparation d'urine. Mmh. Et dans ces villages, donc ils ont mis en place ces filières de collecte. Et depuis, il y a tout un tas de procédés, de manières de faire qui se développent. Et donc, il nous paraît tout à fait envisageable que ces systèmes puissent se développer à l'avenir.
D'accord. Alors ça, pour le coup, c'est un peu connoté. Les toilettes sèches, ça paraît l'ultime accessoire bobo. Est-ce que vraiment c'est quelque chose qu'un particulier ou bien que dans un lieu public, on peut implanter facilement ? Est-ce que c'est, je dirais, un outil du 21e siècle, les toilettes sèches ?
Alors, enfin, vraiment, sur les toilettes sèches, là, quand on parle d'accessoires bobos, je comprends.
Je me fais l'avocat du diable, évidemment.
Souvent, mais vous avez entièrement raison. Ça, on pense souvent aux premiers toilettes qui sont arrivées avec de la sciure, où c'était pas très confort, où il y avait des petites odeurs, etc. Mais vraiment, il y a énormément de technologies qui sortent, en fait, de toilettes. Il y a énormément de fabricants différents. Enfin, Fabien même les connaît même mieux que moi. Mais on peut pas dire qu'aujourd'hui il n'y a pas de solution technique. Et encore une fois, enfin sur le vrai sujet de fond, c'est que de toute façon, les nutriments dont on a besoin en agriculture, je pense par exemple au phosphore, c'est des ressources qui sont extraites de mines. Et de toute façon, les mines, elles ne sont pas éternelles. Et sans phosphore, on ne fait pas pousser de plantes. Donc en fait, c'est pas un sujet. Est-ce que c'est les bobos contre les agriculteurs ? Est-ce que c'est les agriculteurs ? C'est juste qu'en fait, l'humanité a besoin de phosphore. Et le phosphore, on n'en a bientôt plus.
D'accord, donc pour vous, on va vraiment dans ce sens-là. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'autre option.
Mais en fait, si on se dit, OK, on va trouver du phosphore, bon, il n'y aura plus de pétrole. Donc, enfin, dans tous les cas, on est dans une situation où on est, Fabien l'a démontré dans sa thèse, on est dans un système actuellement qui est purement linéaire et ça ne peut pas durer. Physiquement, mathématiquement, ce n'est pas possible.
D'accord.
Donc il faut trouver des solutions pour ne pas tellement se poser. Oui,
bon. Oui, un dernier mot, Fabien Esculier.
Oui, on a essayé de faire une étude de la soutenabilité, c'est-à-dire du caractère durable de la façon de nos systèmes alimentaires, qu'on appelle système alimentation-excrétion, pour bien montrer qu'en fait, il y a la production alimentaire, il y a ce qu'on mange, mais derrière, il y a aussi les excréments, donc nos urines et nos matières fécales qui vont avec. Et en fait, on a montré que le système alimentation-excrétion actuel des sociétés occidentales n'est pas soutenable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer tout en maintenant une planète dans un état vivable pour l'humanité à l'avenir. C'est le principe général des perturbations environnementales globales de l'humanité en ce moment, sur l'extinction de la biodiversité, sur les émissions de gaz à effet de serre, etc. Donc, comme le disait Michael, il faut enclencher cette transition. Maintenant, effectivement, la question, c'est comment faire. Et nous, ce qu'on dit qu'il est nécessaire de prévoir des systèmes qui permettent le retour au sol des nutriments qui sont présents, et en particulier dans les urines, parce que donc, il faut nourrir les plantes pour qu'elles puissent grandir. Et une fois qu'elles ont poussé, elles ont extrait du sol nutriments qu'elles ont utilisé, et une fois qu'on a récolté, on aura appauvri le champ. Donc il faut rapporter ça au sol. Et de l'autre côté, un humain, une fois qu'il a mangé les nutriments qui étaient présents dans les plantes ou dans les viandes, il va intégralement excréter ces nutriments. Il n'y a pas d'autre voie de sortie. L'azote, le phosphore, le potassium va être excrété. Et à peu près aux trois quarts, c'est dans l'urine. D'où l'intérêt particulier qu'on a pour l'urine. Et la question ensuite, c'est de savoir effectivement de quelle manière est-ce qu'on peut valoriser au mieux les nutriments des urines.
D'accord. Donc vous nous dites qu'on va, il faut qu'on commence à songer sérieusement aux toilettes à séparation ou aux toilettes sèches pour revenir à un système un peu plus viable.
Moi, je pense personnellement que ça se fera un petit peu dans le temps, graduellement. Il y a des choses vraiment qui sont imaginables très simplement. Enfin, par exemple, là, je parlais des aires d'autoroute. C'est évidemment plus facile de modifier une aire d'autoroute qui va générer des centaines de milliers de litres d'urine sur une année que d'aller tout de suite dans un appartement parisien installer des toilettes à séparation. Pour autant, in fine, je pense que ce sera fait aussi. Je veux dire, c'est pas quand ce sera trop tard qu'il faudra s'occuper de ça.
Merci beaucoup.
De toute façon, on est de plus en plus nombreux.
Merci à tous les deux, Fabien Esculier, chercheur à l'école des ponts ParisTech au laboratoire Eau, Environnement et Système Urbain. Et vous, Michael Reuss, fondateur de l'entreprise de recyclage de l'urine Toupie Organics, d'avoir été nos invités ce soir. Merci.
Merci à vous.